Maurice Renard, Évasion. Au moins, vous ne vous ennuyez pas, demanda le médecin. Oh, il s'en faut. La vieille et charmante madame de Brège avait répliqué assez vivement, avec un doux sourire quelque peu mystérieux. Une indisposition la tenait au lit depuis quelques jours. On l'y voyait presque élégante, arrangée fort proprement par les soins de sa femme de chambre. Pardonnez-moi, continua-t-il, c'est que je vous trouve, chère madame, si souvent songeuse, je craignais. Oh, je ne craignais rien. D'abord, je ne songe pas constamment. Et sachez que je lis parfois. Et qu'il m'arrive aussi qu'on me fasse la lecture, et puis je ne m'ennuie jamais avec mes souvenirs. Je vous dirais même qu'il en est un si merveilleux. Elle n'achevait point et demeurait souriante, secrète, ses yeux bleus pâles fixés sur une vision. « Dois-je insister ? » fit-il faiblement. « Imaginez, reprit madame de Brège, que vous avez vécu dans votre enfance une aventure féerique. N'y a-t-il pas là de quoi enchanter vos rêves pour tout le reste de votre existence ?»« Mais sans doute, concéda évasivement le médecin. » Oui, vous dites cela avec indulgence. Une aventure féerique, c'est pas possible, n'est-ce pas? Et vous croyez que je bats la campagne? Écoutez-moi, j'avais 12 ans et j'étais fille unique. Mes parents habitaient une belle propriété à Saint-Germain-en-Laye. Une institutrice et un professeur de la ville venaient à la maison. Me donnait des leçons particulières. Oh, je n'étais pas une mauvaise élève. Mais douée d'une sensibilité extrême et d'une très vive imagination, certaines littératures et certains événements historiques me frappaient singulièrement. J'adorais les contes fantastiques, les grandes infortunes du passé faisaient couler mes larmes. Et quand vint pour moi le temps d'étudier la Révolution, le malheur de Marie-Antoinette me jeta dans un trouble extraordinaire, douloureux, presque intolérable. Rien ne peut rendre l'amour passionné, le dévouement fantastique, ni l'indignation que m'inspirait le sort de la reine emprisonnée dans la tour du temple avec ses enfants. Je cessais d'y penser, sans trop le dire pourtant, car j'avais conscience de l'excès de mes sentiments. Je me gardais d'attirer sur eux l'attention de mon père et de ma mère. Je m'y complaisais bien trop. Il me semblait confusément qu'une telle dévotion était plus forte que le temps, et qu'elle faisait fi des années, et que, après un siècle bientôt, sa ferveur, enfin je ne sais comment, aidait la reine à supporter son martyre. Sans que personne ne pût le soupçonner, j'en étais arrivé à vivre constamment par la pensée, avec la prisonnière. Mon âme de petite fille exaltée se fondait étrangement avec l'âme de celle que je révérais plus que tout au monde. J'étais obsédé, moi-même, par la hantise qui avait dû harceler toutes les heures de sa captivité. S'échapper, fuir par n'importe quel moyen avec la petite Madame Royale et le petit dauphin, devenu Louis XVII. Je voulais, roulaient dans ma tête les projets fous, les songes lancinants et irréalisables que la pauvre mère avait certainement ruminés, fiévreuse, pendant ses atroces insomnies. Et ses projets, ses songes, je leur prêtais bien entendu la bizarrerie de ma propre fantaisie. Or, écoutez ceci, mon cher docteur. Un jour, à déjeuner, mon père nous annonça qu'une propriété toute proche de la nôtre venait d'être louée après être restée longtemps inhabitée. Il ajouta que notre nouvelle voisine était une dame Lebrun, veuve, qui possédait deux enfants, une fille de mon âge et un garçon beaucoup plus jeune. Cette nouvelle ne me causa sur le champ aucune émotion. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais à quelques jours de là, on était en automne. Comme je me promenais, j'aperçus devant moi et de dos, dans une allée de feuilles mortes, une dame en deuil qui marchait lentement, les mains posées sur les épaules de ses deux enfants. Et alors je pris conscience d'un prodige aussi délicieux qu'effrayant. Je compris que la reine, parmi 100 vœux insensés, avait fait celui de s'évader dans le temps, de crever le décor de la durée, pour ainsi dire, d'être projetée hors de son siècle, elle et ses petits, pour aller vivre obscur et caché, n'importe où, dans un avenir quelconque, et que ce vœu avait été exaucé. Quel enchantement! Quelle imagination, fit le docteur. Non, vraiment, vous avez cru que la reine... Oui, certes. Ou plutôt, j'ai voulu le croire. Et à cause du charme intense de cette illusion, quand ma raison me remontrait l'absurdité de ma chimère puérile, quand le bon sens me disait, mais voyons, l'histoire est là, l'histoire qui nous enseigne que ni la reine, ni la future duchesse d'Angoulême, ni Louis XVII n'ont disparu comme cela, tous ensemble. Je secouai la tête et je m'enfonçai obstinément dans mon mirage. Je me suis toujours refusé à faire la connaissance de Madame Lebrun et de sa fille, qui, étant donné son âge, était cependant toute désignée pour devenir ma compagne. Prudente, j'aimais mieux me tenir loin d'elle. Pourquoi risquer de dissiper l'ineffable croyance? C'était si beau. Et lorsque mon père fut contraint de vendre notre joli domaine, oh, il y a bien longtemps, Madame Lebrun, toujours en grand deuil, continuait de mener dans la solitude une vie des plus retirées. Je n'ai jamais cherché à la revoir. Je ne l'ai jamais revue. Non, non, ne dramatisons pas davantage. Je ne l'ai jamais revue, ni à Versailles, ni dans les bosquets de Trianon, ni dans le jardin des Tuileries, ni aux environs de la chapelle expiatoire, tout lieu où pourtant je ne me suis jamais privé d'aller rêver. Mais très très souvent, dès que j'en ai le loisir, avec quelle volupté je reviens en arrière pour retrouver les instants mirifiques que je guettais silencieusement à travers les branches, le passage mélancolique de cette femme en noir et de ses deux enfants. Le médecin s'apprêtait à dire d'un ton quelque peu goguenard, Alors, qui donc alors a été guillotiné le 16 octobre 1793? Et qui avait-il baisé, le duc d'Angoulême? Et Madame de Brège, qui parut jouir si merveilleusement du jeu de ses souvenirs, qui jugea plus opportun de se taire.